Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit, là. Il m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a.
Philippe-Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, de... j'en revenais
pas. On peut plus rien dire. On peut plus rien
dire. On peut plus rien dire. Surtout dans
la rencontre. Robitaille.
Bonjour à vous deux.
Allô. Bonjour.
Je sais pas, vous avez entendu Alexandre Valran, là, qui est comédien. Là, pis dans le fond, ce que je comprends du message, là, entre autres, il y en a, y a plusieurs messages, mais je pense qu'il est temps que François Legault sorte là, et parle de civisme, tu sais, dans les endroits publics. Et qu'on s'attarde à la façon qu'on se comporte les uns envers les autres. Puis je sais que Valérie Plante parle beaucoup, là. Elle dit beaucoup de choses sans rien dire. Mais Fadi Daguerre, qui aime les caméras, je pense que c'est le temps de les entendre et de les voir. Puis de faire une sortie, parce que ce qu'a vécu ce jeune homme-là, c'est inacceptable dans notre société. C'est inacceptable.
Mmh. Bien, je pense qu'on a tous un examen de conscience, tu sais, à faire collectivement, puis à s'être là les uns pour les autres, puis à dénoncer aussi ce genre de comportement-là, là.
Ouais, aussi, mais un mot d'ordre de la part des autorités, tu sais.
Mané, le gouvernement, là, c'est pas nos parents, là. Je veux dire, c'était pas grave. Comment ça se fait qu'on en est rendu là, dans notre société, là, qu'il y a du monde qui se met à battre des handicapés, là. Le gouvernement, il peut pas toujours être là pour nous dire que ce qui est pas bien de battre quelqu'un qui est en chaise roulante.
Non, mais le gouvernement devrait fournir des services pour qu'il y ait de la sécurité.
Oui, pour ces gens-là, oui.
Là, il me dit Eric Caldwell. Moi, je pense qu'il est un incapable, le président de la STM. Il dit qu'il n'y a pas d'argent pour ramasser la pièce puis la marde. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Il répond ça à Alexandre Valran. Moi, je le crois pas. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours de l'argent pour des cocktails ou des sorties. Mais il n'y en a pas pour des gens qui vont nettoyer le métro. Ça se peut pas.
Mais la STM est quand même en déficit de quoi? 70 millions cette année?
Il vient de recevoir 300, là.
Le gouvernement a mis 400 millions pour tout le transport en commun de tout le Québec pour les 5 prochaines années.
Oui.
C'est ça.
Bon, parlons du chemin Roxham, Antoine.
Oui, mais moi, je veux parler de l'après Roxham parce qu'il va être fermé ce soir à minuit. Et c'est une surprise, vraiment. J'entendais Mario Dumont tantôt dire si on avait pris des paris là, il y a un mois. Je pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait dit ben oui, dans un mois, il va être fermé, puis les États-Unis puis le Canada s'entendent. Donc, chapeau, je pense, il faut
Pierre
le dire
Poilievre
au gouvernement.
Pardon, c'est 30 jours, là.
Oui, Philippe Vincent l'a noté.
Il a réussi. Oui, 30 jours. C'est fait.
C'est Pierre Poilievre qui avait raison.
Écoute, quand il y a quelque chose qui marche, il faut le souligner, c'est sûr
ben
que...
Oui.
L'après Roxham, c'est pas évident non plus là. Moi, j'avais un expert hier, Daniel Belland de l'université McGill, qui était avec moi à l'excellente émission Là-haut sur la colline, qui m'expliquait que bon, c'est sûr qu'il faut, on attend les détails là, ouais. de l'entente. Déjà, là, on a su que le Canada acceptait d'accueillir un certain nombre de réfugiés, 15 000, c'est pas énorme. Quand même, compte tenu qu'il y en a 40 000 juste au chemin Roxham, des demandeurs d'asile qui se sont présentés cette année.
C'est même pas 1% de tous ceux qui traversent la frontière mexico-américaine et qui sont interceptés par les autorités. Là.
C'est ça. Mais Daniel Belland, une fois qu'on a parlé de l'actualité puis du fait que, bon, on attend les détails, ce que je voulais avec lui, c'est discuter d'un texte qui est publié dans Options politiques. Intéressant texte sur le modèle allemand de la gestion des demandeurs d'asile. Dieu sait que l'Allemagne a reçu des vagues de demandeurs d'asile là, extrêmement importantes. Là. Dans son texte, il dit les demandes annuellement reçues en Allemagne, c'est 7 fois plus élevé qu'au Canada, alors que la population globale de l'Allemagne est environ 2 fois plus grande. Puis là, c'est intéressant parce que l'Allemagne, tu sais, comme ils sont organisés, ils ont un programme de répartition des demandeurs d'asile entre les Länder, puis il y en a 16 Länder, et on va écouter, il y a comme une formule de tu sais, la formule de péréquation, c'est une formule objective, là, à un moment donné, mais il y a une formule de répartition des demandeurs d'asile en Allemagne. On peut écouter Daniel Bellan.
Chaque État, il y a un nombre, il y a un pourcentage de réfugiés qui est alloué par État en fonction de leur population, mais aussi de la richesse de cet État-là. Donc, les États qui sont les plus riches, proportionnellement, par rapport à leur population, reçoivent plus de réfugiés que les États plus pauvres. Donc, si on faisait ça au Canada, ça voudrait dire que une province comme l'Alberta, par exemple, recevrait proportionnellement plus de réfugiés que, par exemple, le Nouveau-Brunswick ou même le Québec, parce que elles sont plus riches.
Oui.
Donc c'est le modèle allemand.
C'est intéressant aussi parce que la technologie est utilisée. Dès qu'un demandeur d'asile dépose une demande, peu importe, ben il y a un système électronique allemand là qui détermine automatiquement l'État qui va traiter son dossier, puis est immédiatement envoyé aux frais du premier État où il est arrivé. Donc, c'est intéressant, c'est pas
d'une
parfait.
D'une réalité dans 50 ans, là, comme si au Canada, où pendant la pandémie, on n'avait pas de documents informatiques, on a envoyé des documents papier, on a attitré des documents, des dossiers d'immigration à des gens qui ne travaillaient plus pour le ministère. C'est le Canada. On peut rêver à mieux.
On peut rêver à mieux. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui parce que, tu sais, on n'a pas encore tous les détails. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas parfait parce que si le système électronique envoie certains réfugiés à un endroit où ils n'ont pas du tout de réseau, ben ça aussi, où leur famille est ailleurs en Allemagne, ils sont envoyés en Westphalie alors que...
Mais est-ce qu'on sait que c'est un succès en Allemagne? Parce que moi, je lis des choses où il y a des endroits... ça va pas très bien en Allemagne à cause de cette arrivée massive de migrants.
Il y a de la xénophobie aussi. C'est justement surtout quand ils sont envoyés dans des zones rurales. Là, il paraît que les centres d'hébergement pour réfugiés, notamment à Rostock, ont été attaqués. On se souvient de Rostock pour 1992. Il y avait eu une attaque. Je me souviens de ça. Puis c'est mentionné dans le papier. Il y a aussi l'idée que est-ce qu'au Canada, avec la Charte des droits, on pourrait restreindre la liberté de circulation comme ils le font en Allemagne. Ben là, Daniel Bellan, il dit, ouais, peut-être que ça fonctionnerait pas, mais peut-être qu'on pourrait quand même s'inspirer de ce modèle-là. Puis, ouais. La co-auteure de l'article, c'est Jennifer Elrick, qui est professeure en sociologie à l'Université McGill. Puis, elle a étudié en Allemagne, puis elle a étudié ce système-là. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que pour l'après-Roxham, il faut y penser.
Sur la liberté de mouvement, ce qui est intéressant, c'est que non, tu peux pas limiter le mouvement d'une personne à l'intérieur du Canada. Ceci dit, ce sont des bénéfices, souvent au début, qui sont payés par la province. Fait que si quelqu'un, aujourd'hui, maintenant, arrive en Ontario, puis que l'Ontario lui offre les bénéfices, mais que cette personne-là veut revenir au Québec, n'aura pas les bénéfices québécois. Ça se passe déjà actuellement. Là. Ceux et celles qui sont déplacés en Ontario doivent rester là le temps au moins qu'ils soient sur l'aide sociale, permis de travail et tout le tralala. Puis une fois qu'ils l'ont, ils vont pouvoir avoir la libre circulation. Mais ils pourraient venir à Montréal sans que personne ne les intercepte. Après, moi, j'ai hâte de voir sincèrement dans 2 ou 3 ans ce que ça va donner. Parce que là, on nous dit, OK, chemin Roxham est fermé, cool, d'accord, on va faire ça comment? Est-ce qu'on va mettre un bloc de béton ou est-ce qu'il va y avoir une équipe des services frontaliers qui vont patrouiller la région puis qui vont refouler les demandeurs d'asile à cette place-là? T'sais, si dans la vie, t'es prêt à traverser la Manche, t'es prêt à traverser la mer pour aller en Grèce ou en Italie au péril de ta vie, si t'es prêt à traverser toute l'Amérique centrale puis les cartels au Mexique puis les États-Unis pour venir au Canada...
je doute que le fait de se faire dire « Ah, ce chemin-là est fermé, tu ne trouveras pas d'autres chemins » alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de petits chemins ici et là qui peuvent être empruntés. Et donc, comment on va gérer ces petits chemins-là? Comment on va gérer le fait de pouvoir refouler aux États-Unis et surtout l'inverse? Comment on va gérer ceux et celles qui vont être ramenés au Canada? Parce qu'aux États-Unis, ils vont pouvoir refouler maintenant des gens au Canada. Est-ce que ça va être plus facile pour un demandeur d'asile d'aller voir un Border Patrol puis dire « Ben moi, je viens d'arriver aux États-Unis, j'aimerais ça demander l'asile. » Ils vont dire « Ah oui, vous arrivez d'où? Ah, du Canada. Ah, ben, on va vous refouler au Canada. » Parce que là, ces gens-là n'ont pas de papier, n'ont pas de preuves. Les entourloupettes me semblent très nombreuses et je crains, comme certains experts le disent, qu'il y ait des enjeux difficiles au niveau de la migration illégale et que de plus en plus, ça se fasse dans la clandestinité et que ça devienne difficile. Puis que des cas de personnes qui vont mourir dans le bois, qui vont mourir abandonnées par des passeurs, je crains qu'il y en ait davantage. Puis ça va comme créer un système à quatre vitesses là pour les réfugiés. Il va y avoir ceux qui vont être parrainés par le Haut-Commissariat, donc par le gouvernement, ceux qui vont être parrainés, comme on l'a vu avec la Syrie, là, par des communautés. Il va y avoir les 15 000 qu'on va choisir quand, comment, à partir d'où, qui, où, les familles, les enfants. Puis il va y avoir ceux qui vont rester dans la clandestinité. Ouais. Ça complique quand même le système. Mais bon, politiquement, comme Antoine le disait, il faut quand même reconnaître que c'est un bon coup de Justin Trudeau. Puis c'est au moins, ça envoie un message de c'est pas si facile que ça, puis c'est pas un bar ouvert rentrer au Canada. Mais ça n'empêchera pas les gens d'essayer de rentrer comme ça se fait déjà actuellement à d'autres points de frontière.
Daniel Belland, il me disait aussi que, tu sais, on a été gâtés d'une certaine façon dans les dernières décennies parce qu'on n'a pas eu de grandes vagues et on choisissait nos réfugiés. On allait dans les camps de réfugiés puis on faisait un tri. Là, on est devant une vague migratoire globale, mondiale, et on est en train de perdre un peu notre innocence. Il y a des moments forts dans l'histoire du Canada, évidemment, d'accueil de réfugiés, puis ici au Québec, plus précisément, il y a évidemment les Boat People avec le ministre de l'Immigration de René Lévesque, Jacques Couture, qui les avait accueillis.
Les Haïtiens aussi. Non, on n'est pas. Mais là, Joe Biden reste toute la journée. Est-ce que l'essentiel de la visite est accompli, Philippe Vincent?
Bien, d'un point de vue politique, Québécois, oui. Je pense qu'au Québec, politiquement, c'était la grosse patate chaude qu'il fallait absolument traiter. Et donc ça, on l'a réalisé là-dessus. Et M. Trudeau, au Québec, là, dans la tête de la plupart des Québécois, va pouvoir dire « mission accomplie ». Mais encore une fois, ça va être de voir est-ce qu'à terme, on a passé assez de temps sur les autres dossiers hyper importants, comme la filière batterie, comme les énergies vertes, comme tout ce qui est microprocesseurs et autres. Économiquement, est-ce qu'on est bien intégré et on va être bien intégré dans la chaîne économique américaine? Ça, c'est l'avenir dans les prochaines semaines, mois et années qui va nous le dire. Est-ce que au niveau de la défense, on va avoir pris des engagements suffisants et qui vont vraiment faire changer notre politique de défense avec le NORAD, avec les investissements dans l'OTAN, avec l'Ukraine, avec la Chine. Je regardais les médias américains tantôt.
La Russie aussi.
Ont des enjeux avec la Chine. Ben oui, ben l'Ukraine, l'Arctique, Russie. Ouais. Mais le NORAD, toute la défense aussi du continent. Donc, j'ai hâte de voir là-dessus s'il va y avoir du concret. Parce que oui, Roxham, c'est beau, mais dans les grands, gros problèmes canadiens et nord-américains, c'est quand même un petit enjeu comparé à ce qui pourrait nous attendre avec tout ces enjeux de défense et ces enjeux économiques. Mmh. Et après ça, notamment le dossier haïtien où le Canada va promettre un 100 millions pour aller former la police haïtienne. Sincèrement, est-ce que ce 100 millions-là, il va se retrouver dans la police haïtienne? Est-ce qu'on va avoir une influence? Est-ce que ça va être un panier percé? Et puis finalement, on va acheter de l'équipement qui va se retrouver dans les mains des gangs. Il va falloir qu'on nous explique ça. Mais comme il y a Roxham, ça va peut-être occulter le tout, mais il va falloir parler d'Haïti bientôt aussi.
Ben oui. Moi, j'ai pas eu de réaction. Juste pour revenir à Roxham en terminant, là, j'ai pas eu de réaction de Québec, mais hier, à la cafétéria du Parlement, j'ai croisé la ministre Fréchette qui a dit « Ah, on attend les détails ». Mais c'est tout. Mais j'ai justement très hâte d'entendre la réaction de notamment de François Legault, qui lui avait dit « Il faut mettre ça en haut de la pile », puis c'est fait.
OK, avant qu'on se quitte, un mot, parce que là, il y a un article dans le journal qui parle des armes qu'on trouve dans les écoles, puis on a parlé aussi des violences sexuelles dans les écoles. Je pense qu'il y a un peu d'ordre à mettre dans les écoles, ça se peut-tu?
Oui, puis une enquête qui va être faite, une enquête générale par le ministère de l'Éducation, qui ça a été annoncé mardi en pleine période de questions par Bernard Drainville. Ça a été salué par Marois Risky, et c'est intéressant parce que les deux, j'ai malheureusement malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais c'était une interpellation du vendredi. Tu sais ce que c'est une période de questions, mais qui est vraiment faite sur un sujet précis entre un ministre et ses critiques. Là. Donc, interpellation du vendredi qui portait là-dessus entre Marois Risky et Bernard Drainville. Puis, il a été beaucoup question de ça. Lui, il a annoncé à ce moment-là une stratégie nationale pour lutter justement contre la violence dans les écoles. Il avait dit au début violence armée. À la fin de l'interpellation, j'ai pu attraper un bout où Marois Risky disait « Ouais, armée, attention, est-ce que c'est juste les armes? Parce qu'un coup de poing, ça peut être aussi de la violence à proscrire et à prévenir, à interdire. » Effectivement, Bernard Drainville a dit « Oui, ça va être la violence un peu plus large. »
On peut pas parler d'angélisme. Là, on parle de violence, des couteaux, des guns, tu sais, ce qui dépasse
l'entendement. Mais juste armé, il peut y avoir des tabassages en règle juste avec des poings, non?
Ben oui, ben certain.
C'est ça qu'elle voulait dire, Risky.
Ouais.
Puis Drainville lui a donné raison. Il a dit, oui, j'avais dit armé ce matin, mais c'est peut-être un peu trop restrictif pour ce qui est de la stratégie nationale qu'on prépare.
Mais Maxime Delan, tantôt, il me parlait là, du nombre de fusillades puis d'attentats qui ont eu lieu au cours des derniers jours, dernières semaines à Montréal.
Ouais.
Là, j'ai Alexandre Valran qui me parle de ce qui se passe dans le métro. Le président du syndicat des constables spéciaux dans le métro dit on est débordé, on n'arrive pas à fournir. À un moment donné, je pense que la violence devrait être un thème plus important. Là, on s'est beaucoup attardé au racisme systémique. On a nommé des commissaires au racisme systémique. Peut-être qu'il serait temps de nommer un commissaire à la violence, là.
Ah, peut-être, effectivement, un autre commissaire.
Moi, j'aime mieux les commissions que les commissaires.
Ouais. C'est ça.
Bon.
Ah, Benoît, Philippe-Vincent et moi, on aime les commissions, on est des commissionnaires.
Ouais, vous aimez ça faire vos commissions.
Il faut qu'il y ait plus de monde,
Je tiens à dire en terminant que Bernard Drainville, il arrêtait pas de dire à la fin de l'interpellation, il n'a pas d'article dans les médias sur ce qui va bien dans les écoles, puis il y a plein d'affaires qui vont bien. Et là, moi, j'ai tweeté parce que, dans le Journal de Québec, en 2018, des profs d'exception qui suscitent l'admiration. En 2016, qui sont les meilleurs profs du Québec? Encore récemment, les meilleurs profs de la COVID. Je m'excuse, là, on souligne, en tout cas au journal, puis j'en ai vu aussi dans d'autres médias.
Moi, je l'ai fait,
des entrevues
avec des profs super.
Ouais.
À une émission qu'on appelle Philippe-Vincent Foisy. Ça se souligne les belles choses qui se passent dans notre réseau.
OK, mais fais une recherche, Bernard Drainville, 98.5 FM. Voir si lui en a parlé, des bons profs, des bonnes écoles, des
Antoine,
beaux projets.
Est-ce qu'on pourrait utiliser le mot en D?
Le mot en D?
Oui. Qui finit, qui rime avec Magog.
On se laisse là-dessus. Merci à vous deux. Bonne fin de semaine. J'arrête ça là. Merci à lundi. Bye.